bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est votre bouche à oreille numéro 381 qui reçoit aujourd'hui non pas une association, mais trois associations. Et pour m'aider dans cette émission, je suis accompagné d'André. Bonjour André.
Bonjour, bonjour à tous.
André, et nous avons aussi Melvin. Alors Melvin, peut-être vous vous rappelez les auditeurs, il a été stagiaire avec nous pendant quelques jours. Et là, il vient nous aider à faire cette émission. Bonjour Melvin. Allez Melvin, prends le micro.
Bonjour Fred, bonjour à tous.
Voilà. Et nous avons bien sûr à la technique notre marsouin, Luc.
Pas de cri, hein.
Non, on fait non, pas non. Non, on est sérieux aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, André, on va demander aux associations qui sont présentes dans le studio de se présenter et de nous dire pourquoi on se rencontre pour faire cette émission, car c'est un sujet sensible aujourd'hui.
Alors, bien sûr, oui. Tu n'as pas précisé qu'en fait, ces trois associations sont venues aussi parce qu'elles préparent un événement important. Mais oui. Je les laisserai un peu nous en dire plus et nous dire quand et comment ça va se passer. Alors aujourd'hui, on a la Ligue des droits de l'homme avec Lucie Samad.
Bonjour.
Nous avons aussi Amnesty International, alors avec Céline Roch et Catherine Lucie.
Bonjour.
Et puis nous avons l'ACAT qui est à la radio pour la première fois ici.
Bonjour. D'accord.
Voilà, alors.
Alors tu n'as pas donné le nom de l'ACAT, la personne qui représente cette association?
Voilà, parce que je ne l'avais pas sous les yeux. Agnès Clouet, c'est ça?
Absolument.
Voilà. Voilà. Et on peut préciser que la Ligue des droits de l'homme, Lucie, est accompagnée de son vice-président.
Philippe
voilà.
Rios.
Philippe Rios.
Bonjour.
On va peut-être commencer par Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme. Moi, je me demandais si ce n'était pas la même chose au début, les deux. Est-ce que vous pouvez nous présenter et l'une et l'autre et les différences? Parce qu'en même temps, j'ai l'impression que vous collaborez quand même assez souvent ensemble. Je vous laisse la parole. Qui est-ce qui va la prendre?
Bon, Céline. Donc Céline pour Amnesty. Alors la différence déjà, d'un côté il y a Amnesty International, donc le côté international peut faire un peu la différence. Amnesty International en plus c'est une ONG qui ne peut recevoir aucune subvention de collectivité, d'État, qui est totalement indépendante. Donc ça c'est aussi une spécificité et une différence avec la Ligue des droits de l'homme. Mais il est vrai que comme la Ligue des droits de l'homme, nous œuvrons pour les droits humains, pour la défense des droits humains et à l'origine pour la défense des défenseurs des droits humains. Mais évidemment que oui, on a beaucoup de collaboration avec la Ligue des droits de l'homme puisqu'on a beaucoup de sujets malheureusement en commun. Voilà, donc je laisse Lucie préciser de son côté et peut-être Catherine qui est notre historique du groupe donner des précisions si elle veut.
Oui.
Oui, donc sur le fond, Céline a un petit peu distingué le côté international pour Amnesty. Nous, on aura au sein de la Ligue une fédération internationale qui fera ce travail international qui s'appelle FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, dont la France et il me semble la Belgique ou la Suisse ont été fondateurs dans la création de cette fédération internationale. Mais sinon, nous, la Ligue des droits de l'homme, en effet, on fait du franco-français, on va dire, avec des sections locales, dont la nôtre, Compiègne-Noyon, est une parmi 800 à peu près dans toute la France. Mais en effet, on se retrouve sur quand même de nombreux sujets sur le Compiénois et le bassin, on va dire, autour, pour la défense des libertés et la lutte contre les discriminations. Et ce côté généraliste, nos deux associations l'ont, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tous les droits sans distinction. On n'est pas spécialisé sur une cause en particulier, on touche plusieurs causes.
D'accord.
Et on peut préciser quand même une chose, excusez-moi, je vous coupe, Amnesty International, c'est anglais, c'est ça, au départ?
Au départ, oui.
Oui, c'est fondé en Angleterre par un avocat anglais.
Oui.
Et après, la spécificité aussi d'Amnesty International, c'est que nous, tout repose au départ sur des pétitions, sur des courriers d'accompagnement aussi des personnes en prison ou en difficulté. Mais c'est vrai que notre première action tourne autour de la signature de pétition.
Catherine, allez-y.
Alors au départ, moi je peux parler de la création du groupe d'Amnesty à Compiègne, puisque j'en ai fait partie. C'était dans les années 80. Et c'est vrai que moi, quand j'y suis rentrée naïvement, je me suis dit, oh, avec en 80, il y a eu l'élection de Mitterrand, etc., ça va s'arranger. Et malheureusement, la situation, voilà. Et donc, depuis, voilà, depuis 80, le groupe existe avec des fluctuations au niveau des personnes engagées. Et donc, nous, nous sommes le groupe 242, parce que nous sommes le 242e groupe à avoir ouvert la section d'Amnesty à Compiègne. Voilà.
Merci.
On peut aussi rajouter qu'Amnesty a eu le prix Nobel de la paix.
Oui, en 77.
Voilà, quand même, c'est ouais, important. Ah oui. Alors, l'ACAT.
Alors, l'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et on peut rajouter, et de la peine de mort. Oui. C'est une ONG œcuménique qui a été créée en 1974 par deux femmes protestantes qui ont dit « plus jamais ça » par rapport à la torture. Et malheureusement, encore, on constate aujourd'hui qu'il y a plus d'un pays sur deux qui pratique encore la torture. La mission de l'ACAT, c'est défendre les droits et puis protéger les victimes, accompagner les victimes. Donc on rejoint dans nos missions et dans nos modes d'action beaucoup Amnesty,
oui,
avec la dimension chrétienne en plus. C'est-à-dire qu'on a la prière et on fait tous les ans une soirée qu'on appelle la nuit des veilleurs pour prier pour les victimes et même pour leurs bourreaux.
Donc là, vous êtes installé aussi à Compiègne, c'est
Alors,
ça
c'est une petite équipe sur Compiègne. Je crois que dans l'Oise, il y a 3 équipes.
Oui. Et alors, vous travaillez aussi régulièrement avec la Ligue des droits de l'homme et Amnesty ?
On se retrouve de temps en temps, mais pas systématiquement. Là, pour cet événement, oui.
D'accord.
On l'avait déjà fait, il me semble, pour encore les droits de l'homme.
Hein. On avait
aussi la peine de mort.
Oui, parce qu'on avait fait
la peine de mort.
On avait organisé une soirée débat peine de mort. Et, et naturellement, en fait, on s'était tourné vers la CAT, qui était, on va dire, la deuxième association sur le Compiénois qui œuvrait sur ce champ comme Amnesty, en fait.
Juste préciser une chose, André, si les auditeurs qui écoutent l'émission veulent réagir, il y a la possibilité avec le Facebook de RVM FM, le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Voilà, comme ça on précise bien les choses. Si vous avez des questions, ou même des renseignements, parce qu'on va parler de l'événement juste après, qui va avoir lieu le 30 mars, hein, c'est ça. Hein, donc on a encore un petit peu de temps devant nous, mais on va y arriver vite. Hein, voilà. Peut-être donner la parole au vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Il a peut-être des choses à nous dire.
Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la Ligue des droits de l'homme. En fait, la Ligue des droits de l'homme, ça a été créée, ça fait, je crois, que 130 ans.
Alors,
1898.
Voilà, merci. Oui.
Et alors, c'est à partir de l'affaire Dreyfus que vous connaissez, etc. Et aujourd'hui, ça veut dire la base essentielle, c'est toujours les droits humains. La sensibilisation, sensibiliser la population dans le terrain, toutes les couches de la population, y compris nos jeunes, nos collégiens, les adultes, et par rapport à des problèmes très concrets de non-respect des droits humains. Il y a un lien très fort avec la Fédération internationale des droits de l'homme. J'étais au congrès à Marseille au mois de mai. Il y avait des gens précisément de la Fédération internationale des droits de l'homme et tout un tas d'autres organisations invitées. Et ça veut dire que nous agissons beaucoup sur le terrain. Et par exemple, dans le Hauts-de-France, nous avons pas mal de sections, je ne sais pas combien, on doit avoir au moins peut-être une bonne trentaine de sections. La section de Compiègne-Noyon, elle a été créée, cela fait à peu près 7 ans. Et ce n'était pas évident parce que la Ligue a essayé de créer la section de Compiègne à plusieurs reprises, et c'est à 7 ans, grâce à un petit groupe, avec Lucie, moi et d'autres, nous avons créé la section qui va jusqu'à Noyon. Ça veut dire que nous avons une action beaucoup sur le terrain, y compris nous avons une permanence juridique. Tout à l'heure, je disais qu'à 16h30, parce que moi, je vais accueillir des gens par rapport à des problèmes de non-respect des droits humains.
D'accord.
Ben, merci de ces précisions.
Ben oui. Peut-être qu'il faut qu'on parle tout de suite de ce qui vous réunit tous les trois, c'est-à-dire ce 30 mars.
Oui.
Qui est-ce qui va se lancer ?
Je veux bien me lancer parce que Céline. Au départ, c'était une initiative d'Amnesty, en fait. Parce que c'est une initiative qui a été lancée, on va dire, en 2019. Voilà. On s'était dit que ça serait bien en 2020 qu'on fasse quelque chose autour de la peine de mort. Enfin voilà, ça nous semblait une bonne période pour le faire. Et voilà. Et donc, on s'est dit avec qui on pourrait travailler là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a sollicité les bénévoles de la CAT qui ont tout de suite dit oui. On a sollicité les collègues de la Ligue des droits de l'homme qui ont tout de suite dit oui. Donc, on a monté des petites réunions de travail pour pouvoir pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait organiser. Et donc, on a réfléchi sur le thème. Et en discutant, on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'il y a un sujet un peu qui pourrait étonner les gens, c'est le fait que dans des démocraties, on puisse utiliser encore la peine de mort. Donc, et donc notamment aux États-Unis et au Japon. Donc, ça nous a amené. On s'est dit que c'était peut-être un sujet qui pouvait parler aux gens et qui pouvait les interpeller. Donc, on est parti sur cette idée-là. On a fait des réunions de travail. Et on s'est dit, tiens, on pourrait faire des lectures. Et donc là, je laisserai en tout cas Agnès expliquer. En tout cas, on s'est dit, on pourrait partir de textes. Et lire des textes. Et on a pensé après au lieu, on s'est dit ça pourrait être un lieu sympa qu'une librairie. Donc on a sollicité la librairie des signes à Compiègne qui nous a tout de suite dit oui, ouvert ses portes. Donc, et pour la lecture, Catherine faisant partie elle-même d'une troupe de théâtre, elle a sollicité sa troupe et eux aussi ont également dit oui. C'est pour ça qu'on est trois associations aujourd'hui, enfin quatre, parce que Catherine représente la troupe également. Mais en tout cas, c'est le fruit de beaucoup de travaux, d'échanges, de réflexions. Il est vrai qu'on devait faire en mars 2020 cette soirée débat lecture, mais malheureusement, le Covid est intervenu et donc ça nous a un peu stoppé dans nos élans. Fin 2020, on s'était dit tiens, on pourrait se relancer, mais non, le Covid était toujours là. Et donc en 2021, là, le Covid s'arrêtant un peu, on s'est dit ça serait peut-être bien de reprendre nos réflexions. Et donc on s'est réunis de nouveau et on a convenu de la date, vu la disponibilité d'une experte d'Amnesty pour venir à cette soirée, ce qui nous a amené donc à cette soirée du 30 mars à 20h, donc à la librairie des signes.
Mars, 20h, ouais. Librairie des
signes. On donnera bien les dates en fin d'émission, il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on en parle peut-être ? Je lance comme ça le nom de la troupe de Catherine.
Oui, donc moi je fais partie d'une troupe de théâtre qui existe depuis plus de 20 ans. Et dans le cadre de cette soirée, on va être quatre comédiennes à lire des extraits. Donc la première partie, ça sera autour de lettres qui ont été échangées entre Wesley, qui est un prisonnier qui malheureusement a été exécuté le 1er février, et des membres de la CAT. Après, il y aura un autre texte de Sang-Froid de Truman Capote, un texte de Badinter, et le dernier texte, ça sera de Ray Hinton, qui est un prisonnier qui est sorti des couloirs de la mort au bout de 30 ans et qui raconte son vécu et comment il a réussi à résister et à donner de l'espoir. Voilà.
Alors, la librairie des signes, il faudra donner l'adresse et tout, et savoir comment on fait pour participer. Ça serait une soirée qui est... C'est entrée gratuite, quoi.
Oui, tout à fait.
C'est important de préciser aussi, voilà.
Oui.
Et puis, comment... Est-ce qu'il faut réserver ? Comment on fait ?
Ça serait bien s'il y avait trop de monde.
Bah oui.
Il faille vraiment réserver, non. On espère, avec la communication qu'on va faire, puisqu'il y a eu un teaser qui a été créé, qui va passer au Cinéma Majestic, réunir en tous les cas d'autres personnes que ceux qu'on a l'habitude de voir.
Eh bien, voilà.
Bien, alors, votre part dans cette manifestation ?
Oui, donc comme disait Céline, la Ligue s'est tout de suite mobilisée sur le projet, surtout que quand on a lancé, il y avait l'objectif des 40 ans aussi de l'abolition de la peine de mort en France. Au niveau de la Ligue, au niveau régional, nous on a fait une exposition qu'on va peut-être réussir à avoir et à proposer aux gens le 30 mars, qui sur 25 panneaux explique un peu toute la dynamique de ça. Et après, sinon, la grosse partie revient quand même à Amnesty et à ACAT. Et nous, voilà, on s'est impliqué sur le côté, en effet, que c'est quelque chose qu'on lutte aussi pour à la Ligue des droits de l'homme. Et notre valeur ajoutée, elle est peut-être plus sur la communication, les réseaux sociaux, justement le teaser avec notre service civique qui écoutera l'émission. Claire, qui a fait voilà, un petit événement de communication assez percutant pour, on espère, le plus possible de gens viennent le 30 mars à la librairie des signes. Et peut-être nos contacts aussi à la Ligue avec les établissements scolaires pour réussir à avoir quelques jeunes qui se mobilisent sur le sujet. Puisqu'on a, avec le projet des plaidoiries, on a des jeunes qui font encore des sujets pour lutter, en fait, et venir parler de la peine de mort dans certains pays, démocratie ou dictature d'ailleurs, mais qui font encore ce constat que c'est quelque chose qui n'est pas acquis partout et qu'il est important de défendre. Donc, si on peut leur donner la parole aussi à ce moment-là, ça serait intéressant.
Aujourd'hui même, où nous enregistrons, vous étiez au lycée, c'est ça ?
Oui, on était toute la matinée là, au lycée de Crépy avec des jeunes qui se mobilisent sur plein de thématiques. Et voilà, la peine de mort, ce n'est pas la thématique la plus abordée, mais de temps en temps, quand même, elle ressort, ce qui veut dire que voilà, c'est quand même d'actualité et que les jeunes peuvent aussi s'emparer de la question et de se dire que... Bah, voilà, on voit avec les statistiques en France que c'est quelque chose qui n'est pas totalement éteint non plus. Et les jeunes se posent la question et travaillent dessus. Et avec leurs recherches, je pense que ça leur donne des billes pour lutter encore plus contre la peine de mort. Parce que en fait, voilà, ils s'appuient sur des études, sur des chiffres, sur des données un peu concrètes et pas que sur de l'émotion, en fait. Des fois, on a des événements qui se passent en France, des faits divers, qui font qu'on voit que la peine de mort redevient un peu le sujet... à mettre sur le devant de la scène. Et donc c'est bien que les jeunes puissent s'emparer et avoir des arguments aussi un petit peu pour lutter contre ça.
J'ajouterais des choses, si vous me permettez. Concernant les plaidoiries, tout à l'heure, nous avons entendu un groupe qui a plaidé sur l'armement aux États-Unis. Ce n'est pas la peine de mort directe, mais c'est indirect. Oui. Avec les armes, le commerce des armes aux États-Unis, les familles, etc. Et ça, c'est un aspect. Et deuxièmement, je voudrais dire que finalement, nous nous battons pour le droit à la vie, les uns et les autres, et au respect de la dignité humaine. Et ça, c'est fondamental. Et j'ajouterai, comme tu disais, Fred, quand nous sommes arrivés, c'est fondamental de savoir travailler en réseau. Et précisément, ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail en réseau. Ce n'est qu'un début. Ça continue. Il faut continuer. Travailler en réseau, dans le respect de l'autonomie spécifique de chaque organisation, mais en même temps, ne pas nous enfermer dans le corporatisme. Savoir agir aussi en réseau par rapport à certaines causes. Et cette cause de la peine de mort, c'est une cause. Il faut qu'on continue à se battre au niveau international.
Et par rapport à ce réseau, alors justement, la CAT.
Oui, alors en 2011, Martine, qui fait partie de notre équipe ACAT de Compiègne, a demandé à un correspondant de langue anglaise et on lui a donné les coordonnées de Wesley, qui est emprisonné au couloir de la mort au Texas depuis 2009 à Pulunski. C'est une prison de haute sécurité très, très moderne. Et donc, on correspond, Martine, en ayant cette responsabilité. Le reste de l'équipe a également participé. Et il a fait différents appels. Et depuis le mois de juin, il a utilisé tous ces appels. Et au mois d'août, il a reçu sa date d'exécution, qui est le 1er février 2023. Et donc, il a été exécuté par injection létale. Donc, ça nous a tous beaucoup marqués, parce que durant ces années, on a eu des liens d'amitié avec lui, et il était devenu une personne importante pour nous. Ouais. Donc, ça nous motive d'autant plus de participer à cette soirée contre la peine de mort.
Alors, je reviens un peu, parce que là, on parle des États-Unis, et donc c'est un peu un paradoxe aussi aux États-Unis. Il y a des États qui les abolissent, d'autres qui font. Il était dans un État où, malheureusement, la peine de mort... Voilà.
Au Texas, oui.
Donc ça veut dire qu'il aurait pu être encore en vie s'il était jugé dans un autre État.
Ouais. Dans un autre État, oui.
Et comment on peut expliquer ça aux États-Unis, quand même, une des plus grandes forces... Peut-être numéro un mondial, je ne sais pas, au niveau d'économie, de l'armement, plein de trucs comme ça. Comment c'est possible dans un pays pareil qu'il y ait différentes lois, quoi, différentes façons de gérer la loi, hein. Je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas les mots en fin de compte, parce que c'est un truc qui me paraît toujours incroyable. Quoi.
Parce qu'ils ont un État fédéral et des États autonomes, et en fait, ils n'ont pas statué dans la Constitution sur le fait que la peine de mort était à abolir ou pas. Ils l'abolissent par État, mais c'est pas dans la Constitution des États-Unis. Ils n'ont pas fait de modification pour intégrer cette abolition de la peine de mort. Donc chaque État fait le choix ou non de l'abolir.
Donc c'est des gouverneurs, c'est ça, dans chaque État.
Voilà. C'est pour ça que c'est le gouverneur qui a le droit ou non de.
C'est lui qui
stopper une exécution. Oui.
C'est pour ça qu'on a écrit quelques jours avant l'exécution par l'intermédiaire de l'association Death Penalty Action. On a écrit au gouverneur du Texas pour demander de suspendre, mais...
Oui.
Et Amnesty avait aussi fait deux actions urgentes pour les mêmes raisons. Voilà.
Ouais. Le système des actions urgentes, c'est quand il y a des personnes qui sont dans l'urgence, c'est-à-dire qu'il faut les aider tout de suite parce qu'on sait qu'il y a un risque. Et donc, on fait des courriers, on mobilise en fait au maximum en France et à l'international pour qu'il y ait des courriers, via les réseaux sociaux, des demandes, des appels qui soient faits pour qu'on trouve une solution pour la personne ou les personnes concernées. Mais malheureusement, entre l'action de la CAT et d'autres organismes et l'action de l'Amnesty, ça n'a pas suffi pour,
mais je pense
pour le laisser en vie.
Je pense que par rapport à votre question, tout à l'heure on parlait précisément au lycée, il faudrait voir au niveau historique comment tout ça se peut passer aux États-Unis. Parce qu'en réalité, les débuts, vous savez, vous connaissez comment ça crée les États-Unis. Ce sont des gens qui sont venus essentiellement du Royaume-Uni, d'Irlande, etc., qui ont occupé les terres contre les autochtones et en plus contre les Afro-Américains et tout ça. Ça veut dire qu'il y a toute une histoire par étapes, et en plus avec les armements, la prison, les injustices et tout ça. Ça veut dire qu'il y a différentes étapes. Et on arrive aujourd'hui, comme tu viens de dire, Céline, c'est qu'il y a des gouverneurs, des États, qui sont toujours pour la peine de mort. Et avec Bolsonaro, avec Trump, c'est encore empiré. Et en plus avec des gens dans certains postes. Aujourd'hui, avec le développement actuel, ils essaient de ramer contre. C'est pas facile. Ça veut dire qu'il y a toute une historique qui vient de loin. Vous voyez ? Et c'est ça qui a créé par rapport aux États-Unis, en disant que c'est une grande démocratie, mais il y a des contradictions énormes. Ça veut dire que ça existe vraiment une connaissance historique depuis que...
Néanmoins, ce qui est positif, c'est qu'il y a de moins en moins d'États qui utilisent la peine de mort aux États-Unis. Ces dernières années, chaque année, il y a un État soit qui abolit complètement, soit qui n'utilise plus la peine de mort. Donc c'est plutôt positif. On va plutôt dans un sens positif que dans un sens d'augmentation, en tout cas aux États-Unis.
Et la Virginie est le dernier État qui vient d'abolir la pratique de la peine de mort, alors que c'est un des premiers États sudistes qui l'a mis en application.
Voilà. Il y a des choses positives, tout à fait, mais il ne faut pas négliger qu'il y a des forces aussi extrémistes, avec Trump et des forces conservatrices, etc. Et je vais même plus loin. Même en France, on commence certaines forces extrémistes à parler de rétablir la peine de mort. Ça veut dire qu'il y a des groupes et des extrêmes qui commencent à prôner la peine de mort, même pour certaines situations.
Oui, ce qui est déjà quelque chose d'ancien. Mais... autour de cette table dans le studio, nous avons un jeune qui a aussi un avis. Et peut-être c'est important d'entendre comment est perçue la peine de mort, parce que je pense qu'il n'y a pas simplement des groupes extrémistes, il y a aussi la façon dont les choses sont vécues, perçues. Vous devez le savoir, quand vous intervenez dans les lycées et collèges. Melvin, vas-y, je te laisse la parole.
Alors, effectivement, j'ai un avis non pas tranché, puisque je ne suis pas à l'abri de changer d'avis dans quelques jours, ou même après cette discussion à la table. Je ne prétends pas savoir grand-chose, j'ai juste un point de vue parmi tant d'autres. Je ne suis ni complètement contre, ni complètement pour la peine de mort, parce que, en fait, je me dis, le plus important, c'est pas la façon... parce qu'en fait, on associe souvent la peine de mort comme une exécution. Et je pense que c'est important de dissocier les deux, puisque ça dépend de la manière dont c'est fait et du pourquoi c'est fait. Et en fait, c'est le pourquoi qui est le plus important, parce que je suis contre la peine de mort parce que j'ai peur qu'en France, si on l'établit, ça sera abusif. Ça sera pour tout et pour rien et pour n'importe qui sera considéré comme un criminel. Alors que je pense qu'un simple voleur ou quelqu'un qui va vendre, par exemple, de la drogue ou quoi que ce soit, ne mérite pas la peine de mort. Mais je pense qu'une personne qui va tuer une autre personne, même là, il faut bien dissocier les deux cas, parce qu'il y a des personnes qui vont par exemple tuer une autre personne pour se défendre ou pour défendre une personne qu'ils aiment profondément. Et est-ce qu'on mérite de tuer une personne qui a voulu juste défendre quelqu'un de sa famille? Je ne pense pas. Mais je pense que quelqu'un qui a volontairement voulu la mort d'une personne et qui et peut-être recommencera, parce qu'on sait que s'il se fait enfermer pour meurtre, il va ressortir dans quelques années, peut-être pour bande conduite ou pour X ou Y facteur. Et c'est prendre le risque qu'il recommence juste après. Et je me dis, si on vote contre, est-ce que relâcher du coup après cette personne qui a commis des atrocités, on peut se dire on a participé quand même à ça, on a participé au fait qu'il recommence à tuer, mais si on l'établit pour, on va priver un homme de sa vie, peut-être d'une rédemption qui était possible, et on se dit putain on participe aussi à ça, et donc c'est vrai que la peine de mort, c'est pour ça que je pense que c'est un avis assez qui divise beaucoup, parce que... Je sais pas trop comment exprimer ce point de vue-là, mais moi je sais que, en tant que personne, si une personne ôtait la vie d'une personne que j'aime profondément, forcément oui, je voudrais que cette personne meure. Je voudrais que cette personne décède, mais ça va dépendre de quel type de peine de mort, parce qu'on a eu plusieurs types de peines de mort qui ont existé. Il y a eu la chaise électrique, il y a eu les injections. Par exemple, je trouve que, à titre exemple, la chaise électrique, c'est beaucoup trop barbare pour la personne, peu importe ce qu'elle a fait. Mais je pense que oui, certaines personnes méritent d'être tuées quand ils n'ont pas la conscience du bien et du mal. Parce que c'est quelque chose de très dangereux, et je pense que c'est ça aussi la question, c'est que la peine de mort ne mériterait-il d'être employée pour des personnes qui n'ont pas la conscience du bien et du mal autour de soi.
Tu as dit une phrase... La peine de mort divise encore.
Oui.
Je voudrais savoir autour de la table un peu comment vous recevez les arguments de Melville.
Alors, par rapport à ce que tu dis, on avait fait justement une soirée débat sur la manière de tuer. Oui. Et justement, en fait, ce qui ressort, c'est que tout est barbare. Parce que l'injection létale, il y a eu plusieurs arrêts d'injection létale parce qu'en fait, il y avait des personnes à qui on mettait le produit, et en fait, elle ne mourait pas. Il y avait d'atroces souffrances. Des fois, elle mourait le lendemain. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne manière de tuer. Enfin, moi, j'utilise le mot « tuer » parce que pour moi, c'est tuer quelqu'un. Et on peut le comprendre dans l'émotion, quand on tue quelqu'un de proche. Mais c'est pour ça que la justice existe. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, les proches, qui décidons de ce qu'on doit faire à la personne. C'est bien la justice. C'est bien la justice qui va statuer, qui va donner un avis et qui va dire quelle peine mérite la personne. Et après, l'autre point, mais que les autres collègues pourront évoquer, c'est que la peine de mort aujourd'hui n'est pas dissuasive. Au contraire, aux États-Unis, il y a toujours la peine de mort et c'est l'un des pays où il y a le plus de meurtres.
Voilà.
Donc c'est pas dissuasif. Et puis l'autre aspect aussi, ce que tu disais aussi, c'est que des fois, on met des gens dans le couloir de la mort aux États-Unis, des gens qui, en fait, ont eu des procès qui n'étaient pas équitables et à qui on a donné cette peine parce que soit ils n'avaient pas les moyens, soit ils n'avaient pas la bonne couleur, soit ils... Enfin, voilà, pour des raisons qui ne sont pas de bonnes raisons. Pour moi, il n'y a pas de bonne raison, de toute façon, pour utiliser cette peine. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on constate aussi qu'il n'y a pas de rédemption possible pour la personne, mais il n'y a pas non plus possibilité de revenir... Quand, après coup, on se rend compte que cette personne, elle était innocente, de pouvoir la faire revenir.
Ouais.
Voilà, donc c'est tout un tas d'éléments qui font que ça interpelle. Et c'est vrai que moi, mon dernier point, c'est que pour moi, c'est pas parce qu'on tue quelqu'un qu'on doit tuer quelqu'un, le meurtrier. Enfin, pour moi, c'est pas ça la justice. Mais ça, c'est, voilà, ma vision des choses. Puisque tu parlais de ta vision des choses, oui. Moi, ma vision des choses, c'est que, voilà, que quel que soit, même, je sais, moi, j'ai des enfants en bas âge. Si on les tuait, ça serait horrible. Mais je me dis, je préfère que ce soit la justice qui s'en occupe que moi. Parce qu'évidemment, moi, je ne serais pas... Je ferais n'importe quoi, je ne serais pas capable d'agir en bonne conscience. Ça sert à ça, les tribunaux, pour le coup.
Je comprends tout à fait ce point de vue, et je suis d'accord avec la plupart des points que vous avez abordés. Mais c'est vrai que je me dis, l'autre solution, ça, c'est l'emprisonnement à vie. Et je trouve que l'emprisonnement à vie, pour beaucoup de grands criminels connus, c'est l'isolement, le droit de parler à personne, le droit de quasiment jamais sortir et tout ça. Et je me dis, ça, c'est pas tuer aussi un petit feu cette personne-là? Est-ce que c'est pas cruel de complètement, avec des risques de rendre complètement fou cette personne-là, et de jouer à ce point-là avec le cerveau humain? Mais après, je pense que la peine de mort, c'est un sujet qui est encore trop tôt à aborder. La justice n'est tellement pas encore parfaite aux yeux de tous. Elle est imparfaite dans beaucoup d'États, dans beaucoup de pays et tout. Et je pense que le plus important, c'est déjà d'avoir une sorte de justice qui satisferait le plus grand nombre pour pouvoir se dire est-ce que la peine de mort mérite ou non de revenir. C'est surtout déjà de pouvoir avoir un peu plus d'équité dans les procès, qui n'est pas toujours le cas malheureusement, et peu importe le pays. Et voilà.
Oui.
Ah. J'ajouterai quelque chose. Derrière tout ça, il y a une question de conception des prisons. Et à quoi servent les prisons? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'une manière générale, les prisons, oui, au lieu d'être un espace de reconstruction, c'est plutôt un espace, souvent, de torture, de répression, etc. Et ça, c'est un problème fondamental. J'ai participé il y a 3 semaines. Nous étions 17 personnes à Beauvais, sur les détenus, la prison et la justice, précisément. Mmh. Et voyez, même quelqu'un qui a tué quelqu'un, hein, il a la justice qui doit se prononcer, si elle est équitable, souvent elle n'est pas équitable. Et après les gens qui sont mis en prison, souvent il y a même des innocents. Et même quand il y a des gens qui sont coupables de meurtre, etc., cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas se reconstruire. Ça dépend des conditions. Et d'ailleurs, Badinter, quand il a plaidé contre la peine de mort, il a donné des exemples vraiment des gens qui se reconstruisent, des gens qui ont été condamnés injustement. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il y a... C'est une question de... Est-ce que nous avons le pouvoir de donner la mort aux gens ? Même quand il y a des gens qui donnent la mort, vous voyez ? Mais il y a toujours une possibilité de construction, même souvent il y a des récidives, etc. Mais les conditions d'emprisonnement, souvent, c'est un grand problème, hein, y compris en France, hein, y compris dans le monde. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a un article dans la Ligue des droits de l'homme qui dit « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Qu'est-ce qu'on fait souvent dans les prisons? Vous voyez, il n'y a pas un travail de reconstruction. Et ça, c'est fondamental. Et deuxièmement, il faut bien distinguer les plans. Une chose, c'est des personnes individuelles. Autre chose, c'est la lutte pour la défense du droit à vivre. Je vais vous donner un exemple qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez ? Ce sont des États. Ce sont des États qui vont contre la vie des gens, le respect des gens. Ils ont tué des enfants, des civils, tout le monde. Vous voyez, c'est une manière, je dirais, publique de tuer les gens contre le droit à vivre. Et alors, en plus, on les appelle, les Russes et d'autres, les appellent que sont des nazistes, des fascistes, etc. Moi, j'étais en Afrique, parce que j'étais contre la guerre coloniale. Et on appelait les Angolais des terroristes, jusqu'au jour qu'ils ont reconnu qu'ils se battaient pour leur droit à l'existence, à la vie. Je pourrais donner par exemple en Israël-Palestine la même chose. Les Palestiniens luttent pour le droit à la vie. Et aujourd'hui, il y a des gouvernements en Israël qui sont contre la vie des gens, l'existence des gens. Ça, ouais, faut bien distinguer quand il se traite des individus quand c'était des populations.
Moi, je voudrais dire que la personne qui a commis un crime, 10 ou 15 ans après, quand elle est exécutée, c'est plus la même personne. Et c'est pour ça que ça ressemble plus à une vengeance qu'à un acte de justice. Et il y a cette phrase de Camus qui dit « La peine de mort, c'est un meurtre légal ».
C'était un jour à la maison, je voulais faire une chanson d'amour peut-être, à côté de la fenêtre, quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono et moi penché sur mon piano comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique. Le matin même, à la santé, Un homme avait été exécuté, et nous étions si tranquilles. Là, au cœur battant de la ville, c'était une fin d'après-midi, à l'heure où les ombres fidèles sortant peu à peu de chez elles composent doucement la nuit. Comme aujourd'hui, ils sont venus à pas de loup. Ils lui ont dit d'un ton doux, c'est le jour, c'est l'heure. Il les a regardés sans couleur. Il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui. Il n'a pas pu, il a pris une cigarette. Sur mon travail tombait le soir, mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano, paroles et musique de personne, et j'ai pensé à ce salon où sans laver sur le pavé par ces bourreaux, je ne suis président de rien. Moi, je ne suis qu'un musicien. Je le sais bien. Et je ne prends pas de pause pour dire seulement cette chose.
Vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit les associations Ligue des Droits de l'Homme, Amnesty International et ACAT. Nous avons commencé à parler d'un sujet sensible, à la peine de mort. Et donc, c'est en raccord avec un événement qui aura lieu le jeudi 30 mars. Donc, on va redonner bien les dates et tout, l'endroit où ça va se passer, oui. Où il y aura des lectures et rencontres, peine de mort et démocratie, un paradoxe. Donc, votre choix musical, c'est le choix de Catherine, c'est ça? On va dire ça?
Oui, parce que quand j'ai cherché des chansons sur la peine de mort, c'est la seule qui existe, en fait.
Voilà,
Julien Clerc. En français, en tout cas. Oui. Julien Clerc, et qui a été écrite pendant un procès de Badinter, où il y a eu effectivement un homme exécuté. Voilà.
Très bien. Donc, je rappelle que pour réagir à cette émission, le mail auditeur@rvmfm.com, au pluriel, hein, auditeur, bien sûr, et le Facebook RVM-FM. Voilà, si vous avez des questions à poser à nos associations présentes, on transmettra. Donc, on a eu un petit échange avec Melvin, avec vous, tout ça. Melvin, une conclusion peut-être déjà à chaud comme ça, ou ça t'a fait changer d'avis ?
Changer d'avis, non. Je pense que c'est une question que je continuerai de me poser, de m'interroger et de peser des pour, des contre. Après, dans tous les cas, aujourd'hui, en 2023, la peine de mort est interdite en France. Et qu'on soit d'accord ou pas, il faut juste, pour l'instant, l'accepter.
Oui, si vous me permettez. Souvent, il y a une tendance dans notre société, notamment dans la société européenne et occidentale, de voir les choses, quand il arrive un événement, oui, on s'arrête trop sur l'événement, et tout ça, c'est une dynamique. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple très concret. Souvent, on dit, par exemple, les gens sont mariés. Ils pensent que son mariage, c'est le mariage pour toujours. Non. À la limite, le mariage, il commence les jours de mariage. Il faut le vivre tous les jours. Les droits humains, il faut le conquérir tous les jours. Quelqu'un qui a commis un crime, il a commis le crime à un moment donné, mais il a la vie devant lui. Il peut se régénérer, il peut se reconstruire. Ça veut dire, c'est toute une dynamique. C'est vraiment un combat pour la dignité humaine. On ne s'arrête pas au crime qui a été fait. Et souvent, on a tendance à se fixer sur l'événement. Il a fait ça, la personne a fait ça, elle mérite ça, vous voyez. Non, c'est toute une dynamique jusqu'au jour de notre mort, hein, toute la vie. Et c'est dans les questions de fond, c'est comment respecter la dignité humaine. Et d'ailleurs, la violence, comme tu disais tout à l'heure, Céline, la violence attire la violence. Et c'est curieux, précisément qu'aux États-Unis, il y a tout un mouvement qui est né, qui s'appelle le mouvement de la non-violence active. Vous voyez ? Et c'est assez intéressant, il y a juste répondre un peu partout, y compris en France. Ça veut dire, au lieu de répondre des armes pour les armes, c'est faire respecter les droits humains avec des moyens humains pour faire valoir la vie, la dignité humaine. Vous voyez ? C'est toute une dynamique. On ne faut pas s'arrêter dans le temps.
Moi, je voudrais juste rajouter que pour faire partie de l'Union européenne, on doit être un État abolitionniste.
Ah oui, aussi, oui. Il faudrait peut-être qu'on revienne quand même à cette manifestation du 30 mars.
Bien sûr, André, bien sûr.
Savoir un petit peu comment elle est organisée, ce qui s'y passe, comment on y vient, qu'est-ce qu'on va y trouver.
Eh bien, on va donner la parole à Amnesty International, puisqu'on note la présence d'Anne Denis aussi, donc qui est responsable de la commission peine de mort. De votre association.
Oui. Alors comment ça va se passer ? Donc, j'espère que vous viendrez nombreux, mais en tout cas, ça commencera à 20h. Nous, on aura chacune de nos associations présentera des stands avec des informations sur le sujet de la peine de mort. La librairie présentera des livres autour de ces sujets-là. Et nous, on fera signer une pétition à cette occasion. Et puis, par ailleurs, donc, on lancera le débat autour, justement, de la question de la peine de mort dans les démocraties, un paradoxe, oui, non. Et c'est donc Anne Denis qui est donc responsable de la commission peine de mort à la section Amnesty International France, qui sera présente pour animer, en fait, ces débats, donner un peu de matière, de contenu, son expertise. Et puis, mais de fait, elle sera là, on va dire... Elle sera là aussi pour répondre aux questions, mais elle fera le lien entre les uns et les autres. Mais il est vrai que le plus important, ça sera vraiment la lecture des textes, la réaction des uns et des autres, c'est-à-dire la réaction des participants à la lecture de ces textes. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est qu'on lise les textes, que on va pas tout révéler parce que sinon, ça serait pas marrant.
Oui, oui. il faut venir le 30 mars.
Voilà, en tout cas, il faut venir le 30 mars pour voir un peu comment on a imaginé cette soirée. Mais l'idée, c'est voilà, de lire les textes, qu'Anne Denis puisse apporter son expertise. Enfin, ça fait pas mal d'années qu'elle est responsable de cette commission, donc elle connaît vraiment très bien le sujet et elle est très ouverte à la discussion. Mmh. Donc vraiment, ça sera quelqu'un avec qui vous pourrez échanger très facilement. L'idée, c'est vraiment un débat, enfin voilà, que les textes amènent à du débat, amènent à de la discussion, et que ça soit pas de l'entre-soi, c'est-à-dire là, on vient d'évoquer avec Melvin des points de vue différents, et ben justement, c'est l'intérêt là, c'est d'avoir pas que des gens qui pensent que la peine de mort, c'est faut pas, mais il peut y avoir des gens, comme tu disais Melvin, qui ont différents avis, et c'est très intéressant justement d'avoir les différents avis pour que comprendre aussi pourquoi les gens ont tel ou tel avis. Donc, parce que voilà, tous les avis sont bons à prendre et à entendre. Et il faut aussi se comprendre les uns les autres et comprendre les arguments des uns et des autres. Donc, c'est un peu l'idée de, cette soirée. C'est vraiment l'échange, la discussion à partir de textes qui parlent, qui sont forts. Et puis après, au bout d'une heure et demie, voilà, on s'est dit une heure et demie, deux heures de discussion. La librairie nous offrira un petit pot, un petit. Donc vous pourrez profiter d'une petite boisson, d'un petit gâteau. Voilà. Et vous pourrez échanger avec Anne aussi. Voilà, c'est ça aussi l'idée. C'est qu'elle, elle restera voilà, jusqu'à la fin de la soirée. Donc elle vient exprès de. Je crois bien de Bretagne. Donc voilà, on a la chance qu'elle vienne et qu'elle connaisse très bien le sujet. Donc il faut en profiter. On a la chance d'avoir des comédiens qui vont intervenir, qui sont. Voilà. Qui pourront aussi peut-être discuter après, qui eux-mêmes ont peut-être des points de vue. Et vous aurez aussi la chance d'avoir différentes associations présentes. Et peut-être que via notre réseau, on aura aussi d'autres associations. Donc on espère aussi avoir pas mal de jeunes comme Melvin qui puissent venir débattre, discuter. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir à tous et que ça ne soit pas juste des membres du réseau, de notre collectif d'associations, mais bien des gens qui aient de différents horizons avec divers avis.
Alors, moi, j'avais juste un commentaire à faire, c'est que j'avais parlé un petit peu de cette soirée déjà avec quelqu'un, et la personne m'a dit, mais la première peine, c'est surtout pour les gens qui perdent un proche, qui a été assassiné, tout ça, et donc la première peine de mort, c'est pour eux, c'est pour les gens, les proches, la famille, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est pas facile, quoi.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un proche qui est touché, évidemment qu'on n'a pas de recul, on est dans l'émotion. On est, comme disait Philippe, sur un acte à un moment donné, à l'instant T, et c'est pour ça que ça ne peut pas être la personne qui directement est impactée qui puisse, en tout cas, établir la peine, parce qu'elle subit déjà. C'est la première victime, là où les premières victimes de ce qui se passe. Donc, de fait, c'est là l'importance des tribunaux, de la justice, d'avoir une justice équitable. Enfin, voilà, après, on peut comprendre, en tout cas, moi, je le comprends parfaitement, que dans l'émotion, on ait envie de faire du mal à la personne qui a fait du mal. Mais ça, c'est se rendre justice soi-même, alors qu'il y a, des juges pour ça.
Et puis, il faut laisser du temps pour pouvoir...
comprendre aussi le pourquoi de l'acte, ce qui a amené la personne à cet acte. Enfin voilà, mais en tout cas, c'est sûr que la personne qui est victime, évidemment qu'elle ne peut pas avoir ce recul. Enfin, je pense.
C'est pour ça qu'elle me faisait comprendre que quand tu perds un proche dans des circonstances atroces, bah la peine de mort, c'est toi qui l'as subi. Quoi. Tu as perdu quelqu'un de cher à toi, et voilà. Donc.
Mais c'est pas en tuant le meurtrier que
ça ira
mieux, quoi.
Moi, je peux comprendre ces choses-là. Hein. Je pense que dans l'émotion, ça doit être très difficile, justement, de gérer ces situations, quoi. Ouais.
Sans dévoiler les textes, on peut en dire quand même deux mots, des auteurs ou des suggestions comme ça.
Donc, il va y avoir les extraits de l'aide de Wessler Ruiz,
d'accord.
Qui est malheureusement la personne qui a été exécutée le 1er février. Après, il y aura un texte de Truman Capote, tiré de 200 froids. Après, il y aura un texte de Robert Badinter, l'exécution. Et après, il y aura le dernier texte qui est un témoignage de Ray Hinton, qui est un condamné qui a passé 30 ans dans les couloirs de la mort et qui raconte au quotidien son vécu et comment il a réussi à garder de l'espoir. et à en donner aux autres. Voilà.
30 ans.
Ça s'appelle Dehors, le soleil brille.
Mmh. On précise quand même que c'était un jeudi, hein, quand même, cet événement.
Oui,
hein, voilà.
Jeudi soir.
C'est un jeudi soir, voilà. Mmh. Donc c'est un jour en semaine.
Et donc c'est à Compiègne, à la librairie des Signes, rue Pierre Sauvage. Mmh. Et là, cette librairie, c'est connu sur Compiègne, mais en tout cas, qu'on soit compiénois. Qu'on soit de Crépinois, voilà, tout le monde est bienvenu. Et quel que soit son âge, enfin, peut-être pas moins de 18 ans, moins de 16 ans, c'est peut-être plus compliqué à traiter comme sujet. Mais en tout cas, voilà, tout le monde est bienvenu, et quel que soit l'avis qu'on a sur le sujet.
Bon, Melvin, on t'accompagnera. Il n'y a pas de doute. Votre part dans cette journée, plus précisément, pour la Ligue des droits de l'homme?
Bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt l'impact de communication avec le teaser qu'on va projeter, notamment au cinéma de Compiègne, au Majestic, pour essayer du coup d'attirer le plus possible de monde. Parce que sur ce genre d'événement, c'est vrai qu'on a tendance, on l'a dit tout à l'heure, à se retrouver entre bénévoles ou des gens acquis à la cause. Mmh. Et le but d'un débat, si on veut un débat, il faut qu'on ait des gens qui ne pensent pas forcément tous pareil. Et qu'on puisse justement avoir des arguments de chaque côté et pouvoir s'exprimer et peut-être partir avec des informations complémentaires pour nous aider à réfléchir peut-être différemment, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas le débat est toujours enrichissant. Donc on diffusera sur les réseaux sociaux aussi de la Ligue et de la Librairie des Signes l'information pour diffuser au maximum.
Oui, mais nous, sur les ondes de RVM, on repassera la faute régulièrement.
On fera la relance.
Exactement.
Il n'y a pas de doute.
Oui, en même temps, notre présence, c'est toujours aussi une coopération en termes de principes et de valeurs. Je m'exprime. Il ne peut pas y avoir ni justice, ni paix, s'il n'y a pas le respect des droits humains. Ça, c'est important. S'il n'y a pas de respect des droits humains, il n'y a pas de justice. Si la justice n'est pas équitable, il n'y a pas de paix. Et tout à l'heure, précisément quand il était exprimé par rapport à votre question, on le veuille ou non, il a des maximes qu'on ne peut pas passer dessus. La personne de la famille qui a été tuée, etc. La première tendance émotionnelle, c'est précisément faire pareil. C'est pareil. Mais quand on ne respecte pas, quand on n'aime pas, c'est déjà une manière de tuer. Ça veut dire, c'est ça qui doit nous amener en travail sur la non-violence, dans le respect des droits humains. Il y a des principes et des valeurs. Et notre souci aussi dans ce genre de coopération en réseau, c'est aussi de faire valoir ces principes de fond et ces valeurs de fond dans les échanges, dans l'écoute des uns et des autres.
Mais je crois qu'on s'est bien écouté dans cette émission.
Oui.
Jusque maintenant, oui, effectivement. Bon.
Après, je comprends que ce sujet peut encore diviser, hein, et ça ne sera pas fini, il y aura d'autres débats. Et même au présidentiel, ça risque de revenir peut-être dans les discussions. Hein.
On voit bien que ce n'est pas parce que l'abolition a été votée que le sujet est épuisé. Au contraire.
Oui, et ça fait quoi, une quarantaine d'années que c'est en 1981, je crois, c'est ça? Oui, à l'arrivée de Mitterrand.
C'est un combat permanent.
C'est un combat permanent, je reprendrai ce que disait Philippe tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que rien n'est jamais acquis.
Exactement.
C'est quelque chose qu'il faut remettre sans arrêt sur le tapis. Ce n'est pas possible autrement.
Et laisser la justice quand même aussi indépendante, quoi, qu'elle ne soit pas contrôlée.
Oui, et qu'elle puisse aussi progresser elle-même. Mmh. Et qu'on reparle un peu des enfermements autrement que...
Il y a aussi les conditions.
Les conditions.
Des prisons.
Ouais, les prisons sont surchargées. Hein, donc ça fait un sujet qui date depuis un bon moment. Hein. Bref, il y a encore matière à discuter. On pourrait faire plein d'émissions autour de vos associations, ça c'est sûr. Hein. Donc... La CAT, on vous invitera, on aimerait bien faire plus ample connaissance avec vous, parce qu'on connaissait un petit peu plus l'Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme, parce que Lucie est déjà venue plusieurs fois sur nos ondes, et Lucie, on se reverra bientôt pour parler encore de plaidoirie, hein, c'est ça, hein ?
Tout à fait.
Donc, justement, dans les plaidoiries, tu disais que la peine de mort, ça peut être un sujet qui va être abordé peut-être de plus en plus, alors.
De plus en plus, on n'espère pas, ça serait mauvais signe.
Disons que...
Mais en tout cas, elle est encore choisie par les élèves cette année encore.
Ouais,
donc, bien sûr.
Je voudrais faire un témoignage par rapport à la radio. Peut-être c'est un peu personnel, mais je vais l'exprimer. J'ai entendu parler de votre radio depuis quelques années. Et ce que j'ai toujours apprécié dans votre radio, c'est qu'une radio ouverte travaille en réseau, qui est attentif à ce qui se passe. Et ça, moi, je le dis parce que j'ai travaillé dans le secteur. Et j'ai eu toujours des échos plutôt positifs de votre radio. Et en plus, je sais que vous essayez de travailler aussi en réseau. Et, en partenariat. Et ça, c'est une très bonne chose. Au lieu de rester une radio enfermée, c'est une radio ouverte. Et au débat contradictoire. Et ça, c'est intéressant. Je le prie que je me dis à titre personnel, mais je voudrais vous le dire.
Écoutez, ça nous touche.
Ça
merci.
Nous touche beaucoup, Philippe.
On va prendre ça comme slogan pour mettre sur les ondes de RVM.
Oui.
Non, je plaisante. Merci, hein, c'est très... Ça fait toujours plaisir d'entendre des choses comme ça. Hein. Ça flatte notre ego. Non, je plaisante.
Bon, ben c'est aussi la mission de cette radio, hein, qui se veut une radio du territoire et qui se veut une radio proche des associations et un lien permanent entre les habitants. Ouais. Voilà. Donc, effectivement.
Eh bien, on va conclure de cette manière. On va rappeler donc le jeudi 30 mars à 20h à la librairie des Signes, 17 rue Pierre Sauvage à Compiègne. Donc, lecture et rencontre, peine de mort et démocratie, un paradoxe. Donc, un moment d'échange, un moment de convivialité aussi, hein, parce que derrière, ça sera suivi, comme disait
Céline.
Oh là là. Comme disait Céline, un petit moment de convivialité. Donc, voilà. Et ça permet aussi de découvrir ce que vous faites, parce qu'il n'y a pas que la peine de mort, vous avez beaucoup d'autres actions. Hein.
Et bien sûr,
malheureusement.
Oui.
Bah, oui. Si vous êtes invité, peut-être vous ne pouvez pas venir, mais peut-être...
On invitera Melvin, oui.
Voilà. Il peut venir, c'est bien.
Merci à vous, merci à la Ligue des droits de l'homme, merci à Amnesty International, merci à ACAT, merci André, merci Melvin d'avoir participé à l'émission, merci Luc à la technique. Rediffusion de l'émission donc le dimanche à 16h et le mardi à 10h et après en podcast. Bonne écoute sur RVM 93.7.
C'était une émission de la rédaction de RVM.